Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. François, on le connaît surtout grâce à son compte Instagram de livraison de mots. Il y partage ses coups de cœur littéraires et parle surtout des autres, des auteurs, de leurs personnages. Moi, en bonne curieuse, j'ai envie d'aller un peu plus loin et de découvrir qui est vraiment François. Et surtout, quels sont les livres qui ont eu un impact fort dans sa propre destinée. Attention, une discussion à visage découvert. Coucou François.
Salut Héloïse.
Bienvenue dans Les mots qui délivrent.
Merci pour cette belle invitation.
Mais écoute, merci à toi. Je suis ravie de t'avoir. J'ai l'impression qu'on a un invité privilégié et qu'on va avoir accès à toi d'une nouvelle manière. Comment tu te sens ?
Bah, super bien. Ah. Franchement, super bien. Je suis super heureux d'être avec toi pour échanger autour de ces mots qui délivrent finalement. Mm-hmm. Qui sont un peu, c'est toute puissance, j'ai ouais. l'impression.
Oui, oui, la puissance des mots, elle est très importante ici. Et quand on va un petit peu te découvrir un peu mieux, on va très vite comprendre, mais c'est qui ce François ? Et ta relation à la lecture et ouais. aux mots. Justement, ce que j'aime bien faire, c'est donner vraiment le champ aux personnes que je reçois. Et est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes mots à toi, justement ?
Alors c'est toujours très compliqué de se présenter parce que dans mon cadre, on a toujours l'impression de me connaître à travers un compte Instagram et on ne me demande jamais qui je suis. Mm-hmm. Donc c'est très particulier, mais pour répondre à cette question, je dirais que je m'appelle François Kuhn, que j'ai 25 ans, que je vis à la fois à Liège et à Bruxelles, que je fais beaucoup de trajets en train, que j'adore ça parce que je lis beaucoup, que je suis quelqu'un de solaire, positif et que je croque la vie à pleines dents et voilà. Je dirais ça pour me résumer.
Ah mais j'adore ce genre de présentation parce qu'elle dit déjà beaucoup de choses, l'air de rien, sur qui j'ai en face de moi. Et ben écoute, on va s'entendre à mon avis parce que on a une passion commune, la lecture, les mots. Et comme tu viens si bien de l'amener, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir qui est derrière ce compte Instagram, qui est derrière ce personnage public que beaucoup de gens suivent, adorent, adulent peut-être. Et moi j'ai envie de découvrir le vrai François. Est-ce que tu es ok de jouer le jeu avec moi ?
On y va.
Bon, commençons. Toi et la lecture, si tu remontes à tes premiers souvenirs d'enfant, de jeunesse, de manière plus générale, c'est quoi ce premier contact ? C'est peut-être un coup de foudre, mais c'est quoi ce premier souvenir avec quelque chose qui s'apparente à de la lecture ?
Alors en fait, il faut savoir que là où j'ai été élevée, chez mes parents, j'étais pas vraiment entourée de livres. J'étais entourée d'une télévision avec beaucoup de football. et ma mère qui faisait pas mal de choses dans le bricolage, des bijoux, de la pâte Fimo, ce genre de choses. Et donc j'ai jamais été entourée de livres. Mais je me souviens tout de même que ma maman était abonnée à Belgique Loisirs.
Ouais.
Et que chaque mois, elle recevait les Disney en livres. Donc ça, je m'en souviens très très bien. Ça m'a marqué parce que je regardais à la fois les dessins animés, j'étais un amoureux de Blanche-Neige que je regardais tous les matins avant de partir à l'école. et donc elle achetait ses livres chez Belgique Loisirs. Et puis à l'école, je me souviens d'un livre, et ceux qui nous écoutent s'en souviennent peut-être, où on devait soulever à chaque page des volets pour découvrir quelque chose. Donc il y avait un fromage, il y avait une souris, j'ai plus le titre, mais je me souviens de ce livre qui a été assez marquant pour moi. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais sans doute l'image et l'œil de ce gros méchant à la fin m'avait beaucoup marqué. Et ça, je vais dire, c'est mes tout premiers souvenirs de lecture. Mmh. Ouais.
Et en fait, c'est quoi ? C'est le visuel ? C'est le fait de tenir l'objet ? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te sens entouré de ce genre d'objet tout petit ?
Mais je crois que ce livre avec le méchant, c'était à l'école, c'était notre prof de maternelle, et je crois que c'était aussi sa façon de raconter. Je l'entends encore faire wow, 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 regardez, regardez, je vais soulever le volet, et regardez ce qui va se passer derrière. Et je pense qu'il y a aussi cette façon de raconter cette histoire. Et puis, mais je pense qu'à cet âge-là, on est beaucoup plus attiré par les dessins que par le texte, et c'est une bonne manière de nous amener au mot. Et oui, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Je me souviens qu'on avait une bibliothèque à l'école, mais j'y allais jamais. J'étais pas du tout intéressée par ça. Mais j'étais intéressée par très peu de choses, petit.
Ah oui, c'est ça, oui. Et donc, quelle est cette ouverture en toi qui s'opère? À quel moment ça bascule de, j'ai quand même des bons souvenirs avec une maîtresse qui peut-être met bien en voix, crée un imaginaire, une mise en scène, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas aller vraiment dans la bibliothèque? Tu vas aller puiser dans ses ressources?
Alors, faut savoir que à l'école, je détestais. Donc, je grandis et puis je me rends compte que je déteste lire.
Ah ouais, carrément.
Je déteste pour une seule raison, c'est que on doit lire ce livre qu'on nous impose pour une date fixe et que à cette date fixe, on a une interrogation où on doit faire quoi? 10 sur 20. À cet âge-là, aujourd'hui, je m'en rends compte avec le recul, mais à cet âge-là. On veut faire 10 sur 20, on veut réussir, on est né dans une société où on doit à tout prix réussir. Et quand on est enfant, c'est ce qu'on nous inculque. Tu dois réussir, tu dois faire 10 sur 20. Donc, et si tu regardes bien, c'est la seule passion, enfin c'est la seule chose au niveau artistique qu'on impose à l'école.
Complètement.
On n'impose pas d'aller au théâtre, on y va avec la classe et on en parle après en classe. On n'impose pas d'aller à l'opéra ou ce genre de choses. Il y a que les livres qu'on impose.
Tout à fait. J'ai été enseignante pendant 10 ans et je t'avoue, prof de français, et c'est quelque chose que personnellement j'ai vraiment essayé de transformer à la fin de mon parcours dans l'enseignement parce que je me rendais compte que comment donner l'accès au plaisir à un élève si effectivement tu lui imposes non seulement une et une seule lecture et ses contraintes de performance. Donc je te rejoins, je te comprends.
Et à cet âge-là, on ne pense qu'à une chose, c'est réussir notre interrogation. Donc pendant longtemps, j'ai détesté. Pour moi, c'était une contrainte en fait. Je voyais le nombre de pages qui n'avançaient pas et je me disais, oulala, dans 10 jours, je vais avoir fini. Et par exemple, je me souviens, on m'a imposé Madame Bovary. Je ne sais plus quel âge j'avais, je crois que j'étais en 5e ou réto.
Ah ouais, ça doit être ça, cette période-là, ouais.
Et je me suis dit, mais le nombre de pages qu'il y a dans ce livre, moi je déteste ça, et j'ai regardé le film.
Oui.
Et j'ai raté mon interrogation, j'ai raté toutes mes interrogations au cours de français sur les livres. Et malgré tout, ça reste un professeur qui m'a amené à la lecture, donc c'est Madame Agnès Dumont qui enseigne à la Haute École de la province de Liège. Première année de communication, elle arrive. Elle nous dit, voilà, je vais vous parler des livres, je vais vous parler des polars et des thrillers. Moi, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, en communication? Et puis, elle nous parle tellement bien des livres. Je n'ai fait qu'une chose, j'ai pris le 2 depuis JEMEP. Je suis venu à la Place République Française, je suis allé à la FNAC, j'ai acheté toute la liste et puis j'ai vu ce livre qui m'a appelé, qui s'appelle « Rien ne s'oppose à la nuit » d'Delphine de Vigan.
Oh là 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 là, quelle belle histoire, j'ai des frissons. Quand quelqu'un découvre le vrai, vrai bonheur, la vraie joie de lire et d'aller chercher ses propres livres en librairie, à la bibliothèque, c'est toujours merveilleux. Donc merci pour ce bon souvenir. Et « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Wow. Qu'est-ce qui fait que quand tu le lis, tu te dis « Ah, je loupe un truc où j'ai vraiment envie d'y aller ». Là maintenant.
Mais en fait, il était là sur le coin de l'étagère à la FNAC. Je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment. Il venait d'avoir le grand prix d'électrice L. Il y avait le logo rose dessus. Et il est quand même, assez épais ce livre. Et je me dis, oulala, j'y vais, je lis la 4e de couverture et je dis, ça a l'air passionnant. Et je ne connaissais pas, moi, Delphine de Vigan, je ne lisais pas, donc je la connaissais pas. Et je commence, et je faisais beaucoup d'aller-retour en train vers Bruxelles chez mon ex-compagnon. Et j'avais que ça à faire dans le train, lire. J'étais pas sur mon téléphone. Et en fait, en 3 jours, j'ai terminé ce livre et je me suis dit, mais c'est fabuleux. Et je n'avais à l'époque jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. J'étais passionnée par la musique, par exemple. Je suis toujours passionnée par la musique, mais jamais je n'avais ressenti de telles émotions. Jamais.
C'est merveilleux.
Elle a une plume très, très... Enfin, j'ai été touchée tout de suite, quoi. À l'époque, je ne me rendais pas compte qu'elle avait une plume incroyable, etc. Je n'y connaissais rien.
Mais en fait, tu reçois l'objet tel qu'il est, quoi.
Voilà.
Dans ce qu'il propose.
En fait, j'ai bu les mots de Delphine de Vigan et je me suis noyée. C'est ce que je dis. Et je me suis noyée dans ces mots. Et j'en sors plus, en fait.
Ça reste toujours une de tes autrices préférées, fétiches. Ouais. Mais écoute, on a un point commun, encore un autre.
Là, le dernier, qui parle justement des réseaux sociaux et des pratiques envers les enfants sur les réseaux sociaux, c'est... J'ai encore été une fois bouleversée. C'est très difficile pour moi de rester objectif avec Delphine de Vigan. J'essaye, mais ça reste difficile.
Mais écoute, ici, dans les mots qui délivrent, en tout cas, bienvenue à la subjectivité, bienvenue aux émotions qui sont les tiennes, parce qu'effectivement, bon, tu fais des chroniques littéraires, tu parles beaucoup des livres des autres avec une certaine posture, c'est sûr. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir accès à, justement, en bibliothérapie, on parle du... Quel est ce jeu dans la lecture? C'est vraiment une question que tout bibliothérapeute formé pose. C'est quel est le jeu dans la lecture? Et c'est pas évident parce que quand on pose cette question aux personnes, naturellement, elles vont avoir envie de proposer quelque chose, tu vois, qui est un bel objet de critique littéraire ou de proposer quelque chose qui soit accessible à tout le monde ou à un plus large public. Mais ici, vraiment, quand tu me parles de toi et de ces émotions qui te traversent toi en tant qu'individu, autorise-toi avec nous parce que c'est vraiment ça qu'on adore. Et c'est quoi ses émotions alors? Au-delà de son style, au-delà des mots qu'elle emploie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Mais figure-toi que c'est un peu indescriptible. Nous sommes dans les mots qui délivrent, c'est vrai, c'est vrai. Mais parfois, il est assez difficile de mettre des mots sur des choses qu'on ressent. Et il s'est vraiment passé quelque chose de... Tu sais, je suis ressortie avec un waouh. Et même à chaque page, j'exagère si je dis chaque mot, mais j'étais là waouh, waouh. Il y avait une certaine, enfin waouh quoi. Même quand j'en parle, ça m'émeut encore. Mais il s'est passé un. J'ai terminé ce livre. Je me suis dit la première chose que je veux faire, c'est rencontrer cette femme. Je veux rencontrer Delphine de Vigan. Alors c'est pas arrivé avant que je crée ce compte Instagram et que j'ai une interview avec elle. Et là, je l'ai vue et j'ai pleuré en fait.
Ah oui, donc l'émotion, elle est intacte.
J'ai pleuré tellement. Je suis quelqu'un de sensible, mais arriver à une interview, être professionnel et pleurer devant l'auteur, c'est quand même. Et j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Ouais, c'était. Ouais. Je pense que c'est rien ne s'oppose à la nuit et l'ensemble des romans de Delphine de Vigan, c'est un peu de la dentelle littéraire.
Complètement, totalement, oui.
c'est tout quoi. Enfin,
Et ce qui est intéressant, c'est quand on est sans voix et justement qu'on n'a pas de mots, c'est intéressant de l'amener parce qu'en fait, c'est qu'il y a quelque chose de tellement fort qui nous traverse dans notre corps que, comme tu le dis, ça peut vraiment être indescriptible. Et ce que je retiens de ce que tu amènes, c'est qu'en fait, tu es dans un état presque de choc, hein, de.
Ouais, de. Je n'ai jamais ressenti ça.
C'est ça.
Je suis là et je n'ai jamais ressenti. Et je pense que. Tu sais, on me demande souvent quel livre t'as trouvé T'A et l'inverse. Et ben moi, c'est celui-là en fait. Et quand j'entends quelqu'un qui me dit je déteste lire ou j'aime pas lire, alors ça m'est arrivé et je réponds simplement, mais c'est parce que tu n'as pas encore trouvé ton livre ou ton livre ne t'a pas encore trouvé.
Ah, mais ça, c'est. Oui.
En fait, moi, c'est celui-là. Et pour tout avouer, à chaque fois que je vois une nouvelle chronique sur les réseaux sociaux de quelqu'un ou quoi, ben, ça me fait quelque chose et je ne peux m'empêcher de liker, de sur-liker, de sur-liker et de commenter. Ouais, parce que c'est... Mais je crois qu'il a marqué beaucoup de personnes.
Ah, totalement. C'est vraiment un livre coup de poing à plein d'égards. D'ailleurs, les prix, effectivement, et la manière dont il a mis Delphine de Vigan en lumière le témoignent bien. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est comme tu dis, ce livre m'a trouvé. Moi, dans mon expérience professionnelle depuis 3 ans et toutes les rencontres, toutes les discussions que je peux avoir avec des personnes qui lisent, c'est vraiment ce côté, il y a une forme de magie, une sorte de relation qui se tisse entre un ou quelques livres et toi, une rencontre, voilà, au niveau très très personnel. Est-ce que tu sens de la magie maintenant dans ta vie depuis que, voilà, depuis Delphine de Vigan, depuis ce moment dans le train, 3 allers-retours ou 4 ou 5 pour terminer le livre, est-ce que tu sens une nouvelle magie, quelque chose d'inédit qui est entré dans ta vie
Oui, c'est... En fait, moi, les livres et les mots et la littérature en soi, ce sont mes meilleurs amis. En fait, je dis toujours, et c'est un peu ma phrase quelque part, c'est un livre, c'est le ticket meilleur marché pour voyager le plus loin possible.
Bien sûr.
Et en fait, à chaque fois que j'ouvre un nouveau livre, je me dis, ah, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais rencontrer une nouvelle culture, je vais rencontrer un nouvel endroit. Et à chaque fois, il y a des déceptions, comme dans les rencontres. Il y a des rencontres qui nous déçoivent et il y a des livres qui me déçoivent. Mais c'est... Ouais, la magie, ouais. C'est... Une autre de mes phrases par rapport à la lecture, c'est « Lisez, vous aurez des étoiles plein les yeux ».
Bien sûr.
Ça, c'est... C'est vraiment un peu ma devise, la devise du livreur de mots. Et oui, à chaque fois, il y a quelque chose qui... Oui, il y a quelque chose, il y a... Je m'identifie à ces personnages, je me reconnais, ou je suis totalement différent. Mm-hmm. Et je réfléchis différemment. Et alors, il y a aussi ce pouvoir que certains livres peuvent avoir pour complètement... chambouler un avis que j'avais, une idée préconçue, un préjugé.
Justement, je sais que tu m'as confié quelque chose tout récemment. Est-ce qu'on peut aller un peu là-dedans ? Parce qu'il y a des livres qui sont confrontants aussi. Il y a des livres qui nous bousculent. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant en bibliothérapie, c'est qu'il y a des livres qui nous amènent vraiment à une forme de transformation en nous-mêmes. C'est quelque chose que je vis personnellement, dont je suis témoin avec d'autres personnes, cet état de transformation, parfois douce, parfois brutale. Parfois ça se coupe. Et tu m'as confié qu'il y a effectivement un livre, un peu plus tard dans ton parcours de lecteur, qui t'a marqué très fortement dans cette idée de confrontation. Est-ce que tu es OK de lever un peu le voile pour nos auditeurs et auditrices ?
Allons-y.
Allez, raconte-nous.
Donc ce livre, c'est « Joli, joli monstre » de Julien Dufresne-Lamy, qui est un auteur brillant. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, ça ne saurait tarder, j'en suis sûre. Et en fait, ce livre, Joli, joli monstre, je me souviens l'avoir reçu dans ma boîte aux lettres. Je me souviens très bien. Je vois ce bandeau lumineux où il est écrit Joli, joli monstre, comme dans les boîtes de nuit. Et je savais qu'on allait nous emmener, qu'on allait m'emmener dans l'univers du voguing, dans l'univers des drag queens. Et il y avait un côté de moi qui était très intéressé. Et il y avait un côté de moi qui était très... Oh non, pas ça, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, en tant qu'homosexuel, moi, j'ai toujours eu un problème avec les drag queens et je trouvais que ça décrédibilisait la communauté gay. Et à la lecture de ce livre, je me suis retrouvé avec plein d'émotions, encore une fois, que j'avais peut-être jamais ressenties. Et... C'est un livre qui m'a transformé et je me suis rendu compte avec ces pages que en fait c'était un monde que je ne connaissais pas et que je jugeais avant même de le connaître.
Ah ouais.
Et à partir de cette lecture, je me suis dit, mon coco, tu vas arrêter de juger les choses que tu ne connais pas.
Merci Élie.
Parce que tu te gourres totalement. Et en fait, c'est un livre, oui, qui va on est à New York et il nous emmène vraiment dans l'univers. On est dans cette boîte de nuit. On est avec ces drag queens. On est avec ces drag queens et la propagation du sida dans ces années-là. On est avec Madonna. On est avec David Bowie. On est avec tous ces gens-là. Et j'avais qu'une envie. Je t'assure qu'en finissant ce livre, je n'avais qu'une envie. C'était de chausser des talons aiguilles et de filer en boîte de nuit.
Et d'y aller, quoi.
Et d'y aller. Et d'y aller. Et je me souviens, que pour le lancement du livre, la maison d'édition Bellefond avait fait dans le Marais à Paris un lancement avec quelques drag queens et une maison de drag queens qui s'appelle la Maison La Durée. Et on nous a appris à voguer, on nous a appris plein de choses et j'ai sorti de là. C'était le bonheur absolu, quoi.
Donc en plus, après la lecture, tu as eu accès réellement à cet univers en vrai, c'est
ça ? Ah oui, et maintenant j'y vais. Enfin, avec les circonstances qu'on connaît, le fait que tout soit fermé, évidemment, j'ai plus la possibilité. Mm-hmm. Mais j'adore aller voir un spectacle de drag queen.
C'est génial.
Et je vais leur parler après. Et je peux rester des heures à boire des verres avec. Je suis même fascinée dans la façon... parce qu'en plus de tout ça, je regardais reportages sur les drag queens. J'ai regardé une série sur Netflix qui s'appelle Pause et que je recommande à fond.
Si magistrale, hein, très belle mise en scène.
Incroyable. Et je suis fascinée par ce maquillage, cette transformation,
Ah mais c'est génial que tu puisses amener ce genre d'expérience personnelle que je trouve intime aussi parce que ça parle aussi de qui tu es en tant qu'homosexuel et qu'en fait on n'est pas obligé d'être tous d'accord nécessairement parce qu'on a une identité ou une étiquette homosexuelle mais en fait il y a tellement de gens différents, uniques,
c'est clair.
Qu'on a tous nos points de vue et nos préjugés sur certaines choses et que tu amènes en toute transparence qu'à ce moment-là tu te dis en fait je ne connaissais pas. Avoir cette humilité en toi grâce à la lecture, grâce à la découverte de cet univers, grâce au livre, d'avoir cette humilité en toi de dire, bah, en fait, comme tu dis, mon coco, je me suis plantée.
Mais en plus, Julien Dufresne-Lamy, c'est quelqu'un qui va donner la voix à travers la littérature à ceux qui ne l'ont jamais. Mm-hmm. Dans chacun de ses romans, c'est les drag queens, quand on est vraiment... Enfin, je sais pas si tu as la même impression que moi, mais moi, j'ai l'impression qu'on voit ce que c'est, mais c'est tout. Mm-hmm. On n'en parle jamais.
Ouais. Comme beaucoup de sujets, en fait, qui traitent de minorités, c'est-à-dire que j'ai l'impression que seulement depuis 3, 4, 5 ans, que, surtout Netflix, parce que bon, là, on va un petit peu faire un écart par rapport à la littérature, mais Netflix a été un très beau porte-voix aussi pour toutes ces minorités, mais qui, en fait, sont des adaptations, très souvent, de livres. Hein,
et pour un auteur réussir à déconstruire des préjugés, il a tout réussi.
Waouh, eh bien, j'espère que tout le monde le note, là, que tout le monde va aller le lire, quelle que soit notre personnalité, quel que soit notre genre, notre parcours. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est tu nommes cette notion de « je ne connaissais pas ». Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que le livre, il y a le plaisir, il y a l'évasion, tu parlais du meilleur ticket pour voyager, mais est-ce qu'il y a aussi, selon toi, cette notion de connaissance, d'élévation de soi, d'amélioration de nous-mêmes?
Oui, j'en suis convaincue parce que la lecture m'a aidée dans beaucoup de choses dans ma vie. Et là, tout de suite, vraiment là, tout de suite, je me rends compte que, par exemple, les livres m'ont aidée dans la mort et l'acceptation de la mort.
Ah, oui.
Par exemple, dans pas mal de livres et dans pas mal d'œuvres en général, on traverse, le héros ou l'héroïne traverse à un moment donné la mort, comme dans la vraie vie, finalement. Et je voyais la mort avant comme quelque chose de très, de très triste, sombre, difficile. Ça l'est, d'une certaine façon, ça l'est. Mais aujourd'hui, je rassure beaucoup mes proches et je me rassure moi-même en me disant, je sais pas, par exemple, moi, j'ai pas vécu un décès. Enfin, si, il y a quelques années, mon grand-père est parti. Et je disais à mes amis, mais j'ai de la chance d'avoir eu un grand-père comme ça. J'ai de la chance d'avoir eu cette relation que j'ai avec mon grand-père. Alors, tout le monde n'a pas des relations exceptionnelles avec son grand-père, c'est sûr. Mais quand un être cher s'en va, c'est qu'on a eu une belle relation avec, je pense.
Ouais.
Et c'est les livres qui m'ont aidé à ce niveau-là.
Ah oui,
c'est
et quel type livres. De livre alors? Quel type d'histoire qui t'a fait sentir
mieux? Mais il n'y a pas une histoire en particulier, mais... Tu sais, je lis très peu de livres de développement personnel ou de feel good, comme ça s'appelle. J'en lis très très peu, mais souvent, je remarque que dans les feel good, il y a un certain parcours de résilience par rapport à une mort ou quelque chose ou un fait difficile. Et ouais, je pense peut-être à Agnès Martin-Lugan qui m'a aidé. Je ne saurais plus dire le titre, hein, mais je me souviens très bien d'un livre où...
Oui, je vois exactement. C'est pas celui où les gens heureux lisent et boivent du café, où elle part en Irlande, hein, c'est ça.
Je crois qu'il est question d'une mort, je suis plus sûre, hein, mais je crois
Oui, c'est ça, c'est la mort de son conjoint et de son enfant, en fait, c'est ça, oui.
Mais après, c'est au fur et à mesure de lire des livres et qui abordent, à un moment donné, pendant un chapitre, la mort, qui... Et par exemple, j'ai fort changé de point de vue là-dessus, quoi.
Ouais.
Et après, il y a plein de livres qui me donne d'autres façons de penser. Aujourd'hui, j'ai pas des titres ou des histoires en tête, mais je sais que je ressors différent de beaucoup d'histoires. Là, à l'heure actuelle, là tout de suite, je suis en train de lire un livre sur la fécondation in vitro. C'est une héroïne c'est une femme qui raconte son parcours. C'est un peu autobiographique, mais c'est tout de même romancé. Et encore une fois, je connais pas tout ça. Et je suis là, mais waouh. Et je pense encore différemment.
C'est ça. Est-ce que tu te sens grandi? Donc tu as, si on situe vraiment ce premier livre avec Delphine de Vigan, je pense que tu m'as dit que c'était il y a quelques années, et c'est assez récent, ce premier livre.
Oui, il y a 5 ans, je crois.
Il y a 5 ans. Du coup, moi, je suis en train de me demander, quand on en parle et à t'entendre, en 5 ans, parce que tu as 25 ans, je vais un petit peu faire ma vieille, hein, j'en ai 36, mais je me dis 25, c'est jeune. Imaginez quelqu'un entre 20 et 25 ans, on est encore dans cet état d'édification de soi-même, on est encore en train d'apprendre tellement de choses. Est-ce que tu te sens fortement changé depuis le premier livre que tu as ouvert avec cette passion d'un coup qui arrive, et maintenant 25 ans, et ce fameux... Bookstagram et tout ce que ça t'a amené, tu te sens changé, grandi?
Oui, beaucoup. Non seulement grâce à les livres, grâce à la musique, mais aussi grâce... j'ai très vite eu mon indépendance dans la vie. J'ai très vite... Enfin, j'ai eu un premier compagnon à Bruxelles. Donc, je prenais le train très jeune. Et puis, je dirais aussi que d'avoir vécu là-bas pendant un petit temps, ça a aussi... ouais, ça m'a transformé et... Mais je sais pas si... Je me sens grandi, c'est clair. Mmh. C'est clair par rapport au livre... Je sais pas si c'est par rapport au livre, mais je pense qu'il participe
en même temps,
à
tu
ça,
vois,
oui.
Tous ces paramètres qui se mélangent.
Mais je pense qu'ils y participent, c'est sûr, ça fait partie de ma vie, 4 heures par jour, donc...
Ah oui,
c'est...
4 heures par jour.
Oui,
ouais.
Ouais. Mmh. Sinon je dors très mal. Ah mais... mais oui, c'est... En fait, là où je peux dire, où je remercie les livres, c'est qu'ils m'apportent des façons de penser vraiment différentes par rapport à celui que j'étais, quoi.
C'est précieux, ça.
Ouais.
Mais comme tu parlais de rencontres et que les livres étaient des sortes de rencontres, en fait, chaque nouvelle rencontre que tu fais, qu'elle soit sympa ou décevante, comme tu l'amènes, te transforme. Et les livres, si tu as, tu vois qu'elles sont vraiment comme des amis, comme des rencontres, en fait, oui, elles transforment. Peut-être un petit truc ou un grand truc en toi, mais c'est intéressant. Tu parles de 4 heures de lecture par jour. Moi, ce que j'aime bien demander justement dans ce podcast aussi, c'est quoi cette gestion du temps par rapport à la lecture? Parce qu'on est vraiment dans une situation depuis quelques années, le Covid vient de mettre un accélérateur là-dessus. Notre relation au temps est très ambivalente. C'est-à-dire qu'on veut en faire un maximum en un minimum de temps. Et à l'inverse, on se sent surmené, on a tellement de choses à faire qu'on a besoin de souffler. Et ce n'est pas toujours évident de créer des espaces pour certaines choses. Moi, dans mon entreprise, dans mon expérience, je me rends compte que créer de l'espace pour lire, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas si facile. Et toi, tu parles comme ça, simplement de 4 heures par jour. Alors, j'ai envie de te demander, cette gestion du temps, la lecture, est-ce que c'est facile de créer des espaces? Est-ce que ça a été facile au début? Comment ça se passe? T'as 24 heures dans une journée, comme tout le monde, tu peux pas changer ça. On voudrait parfois, mais
quoique.
On peut... Raconte-moi le temps et la lecture pour toi.
Donc, 2 heures, si je lis 2 heures par jour, ça va. Mm-hmm. Je suis bien. Ouais. Si j'en lis 4, je nage en plein bonheur. Mais c'est des moyennes, hein. Après, des fois
oui,
c'est moins,
bien
des
sûr.
Fois il y a des jours où je lis pas, hein. Je suis surchargé, je sais pas lire. Mais je suis pas bien, ça c'est vrai. Mm-hmm. Mais tu sais, je sais pas si t'as la même impression que moi, mais on entend souvent les gens dire « Mais comment tu fais pour lire? Moi j'ai pas le temps. »
Ouais.
Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, faut s'accorder le temps de...
Amen.
Tu vois, par exemple, j'ai une amie qui me dit « Oui, mais j'ai pas le temps de lire, moi... Je travaille tout le temps et tout. » Je lui dis « Oui, mais ma cocotte, pendant que tu regardes ta série sur Netflix, tu pourrais faire 1 heure de série et 1 heure de lecture si t'as vraiment envie de lire. »
Ouais, c'est tellement vrai.
Et moi, comment je me ménage ce temps? En fait, j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais on me dit que c'est pas de la chance. On me dit que j'ai créé ça aussi moi-même. Mais mon compte Instagram Livraison de mots, c'est mon métier.
Ouais.
Donc, j'en vis aujourd'hui. Et donc... Faire ces posts de chronique et des retours de lecture, c'est mon métier principal. Mmh. Et donc, voilà, j'ai cette chance. Mais après, il faut savoir que dans ce métier, comme tout le monde, je réponds à beaucoup, 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 beaucoup de mails.
Ouais.
J'ai des participations dans la presse. Enfin, j'ai plein de choses à gérer.
Il y a
j'ai
tout
des
ce
voyages,
qui est derrière l'Insta, quoi, en fait.
Qu'on ne sait pas. Mmh. Et, ou qu'on soupçonne un petit peu et... Mais c'est vrai que généralement, je lis le matin. Par exemple, mon premier rendez-vous est à 10h. Je vais peut-être me lever, il me faut environ 40 minutes pour me préparer. Je vais peut-être me lever 2 heures à l'avance.
C'est
comme ça, j'ai ces 40 minutes et je lis 1 heure. Et puis, j'adore lire dans les transports. Je ne conduis pas. Donc, je ne prends que les transports et j'adore ça. Le train à fond les ballons et le soir. Le soir, c'est...
Ça fait partie du rituel de la soirée, alors, la lecture.
Ouais.
Ouais.
Je regarde très, très peu la télé. Très peu.
Ça, c'est intéressant. Tu l'amènes avec ta copine, là, et Netflix, et les séries, etc. On peut tous et toutes être pris par ça, effectivement. Et le soir, consciemment choisir de dédier ce fameux temps à la lecture, pour moi, c'est très fort. Hein. C'est presque un peu punk, hein, maintenant. Tu vois, avec tous ces produits de consommation... facile, quoi, accessible.
Ouais. Et puis, tu sais, à un moment, je me dis, la soirée du lundi, ce sera soirée lecture. La soirée du mardi, ce sera soirée série et puis ouais. mercredi autre chose. Et en fait, non, ça ne marche pas. Mm. Sur moi, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas soirée lecture tous les jours, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai d'autres choses dans ma vie, mais 20-25 pages en soirée, ça me fait du bien, quoi, avant de m'endormir. Mm. Et bon, après, faut pas que je sois dans un livre, mais ça arrive
ça,
tout le
temps. Ça,
c'est
compliqué, hein. Il y a certains livres qu'il vaut mieux pas lire le soir.
Ouais, j'ai eu le cas récemment en plus.
Oui, ouais. Ça peut t'emmener loin dans la nuit parfois.
Ouais.
Et ton petit rituel idéal, vraiment, parce que ça, je pense que c'est peut-être des choses que les auditeurs, les auditrices ont envie de découvrir aussi. Mm-hmm. C'est quoi ce rituel idéal? Parce que moi, je dis toujours, et quand on va au Slow Reading Club, les lecteurs et lectrices qui viennent, on se rend compte que les lecteurs ne viennent pas que pour lire. Il y a le petit goûter, il y a un petit repas, on est dehors, il y a le bruit de la ville ou le bruit du vent, il y a des choses qui font qu'il y a tout un imaginaire et un espace autour du livre. Ton rituel idéal et quelque part celui que tu fais quand même vraiment. Hein. Comment ça
ouais.
se passe
Quand je lis.
Ouais, toi.
Écoute, c'est souvent dans mon lit. Seul. Alors j'adore, c'est une petite anecdote, hein, mais j'adore manger des graines de tournesol salées en lisant.
Ah voilà, parce que nous on est très épicuriens au club, hein. Au Slow Reading Club on aime manger, boire, lire. Donc
ben,
bien
j'adore
aussi,
les graines, ouais. Ouais, j'adore ça, mais sinon, non, je suis souvent allongée dans mon lit, mais après, on peut dire que c'est en quelque sorte un rituel parce que je le prends toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, mais le train vers Bruxelles ou vers Liège, ça dure une heure, le trajet, et je ne mets absolument pas d'écouteurs dans mes oreilles, et j'écoute tout ce qui se passe en même temps que je lis. Mm-hmm. Alors, ça peut paraître fou pour beaucoup, mais j'adore ça, et au-delà du fait que ça m'aide à me concentrer sur ma lecture, mais je sais dire ce que la femme devant a dit au téléphone, et au-delà de... Pendant la lecture, ça m'inspire beaucoup parce que j'écris aussi. Mmh. Et quasi toutes les discussions que j'entends dans les trains sont dans mes écrits. Quasi
toutes. Ça ne m'étonne pas parce que j'écris aussi, je coach des personnes qui écrivent. Donc il faudra peut-être que je te réinvite pour parler de l'écriture une autre fois. Mais bien sûr, ouais. le train, l'observation, la terrasse du café,
exactement.
C'est le meilleur lieu.
Je pose à une terrasse et là je ne le fais plus, mais...
Mmh. Ça revient.
Mais,
ça revient,
oui, ça revient petit à petit. Mais me poser à une terrasse et imaginer la vie des gens en face de moi, j'adore, j'adore.
Bah déjà, si tu aimes lire et que tu aimes les histoires, en fait, tu peux aussi observer les vraies histoires dans la vraie vie autour
c'est
de
vrai.
Toi. Et dans ce train, bah oui, en fait, c'est un rituel. Hein,
oui, c'est devenu un rituel.
Parce
que
tu n'es pas le premier qui me l'amène. Je connais d'autres personnes que je reçois au club ou ailleurs qui aussi ont beaucoup de trajets, sont des nafteurs et c'est vraiment presque un manque. Il y a eu du télétravail pour beaucoup. Il y avait plus cette possibilité de prendre le train pour le travail. Et du coup, la lecture n'avait plus trop sa place, ne pouvait plus vraiment prendre sa place dans le quotidien. Donc moi, je pense que tu peux le nommer vraiment comme un rituel. C'est quelque chose de répétitif que tu fais régulièrement.
Et puis, je lis aussi en marchant.
En marchant ?
Ouais.
Attends, comment tu fais ? Parce que tu vis en ville. Comment tu prends pas des poteaux ?
Eh ben, écoute,
comment tu fais pas écraser ?
Ça m'arrive, pas à chaque fois, hein, mais ça m'arrive de lire en marchant si je suis vraiment dans un livre que je veux continuer. Ça m'arrive, mais beaucoup me demandent hein, comment je me prends pas des poteaux, etc. Je me suis déjà pris des besoins de chiens ou d'autres animaux, je n'en sais rien.
C'est drôle.
Mais, écoute, je sais pas si c'est drôle, mais...
Pardon,
si,
pour moi, ça l'est.
Avec le recul, c'est drôle. Mais sur le moment même,
quand
tu vas au bureau... mais après, je lis en marchant, j'adore lire dans un bain, j'adore ça.
Oui, j'entends aussi ça quelquefois. Ouais. Ah, ça, c'est un vrai bon rituel bien-être.
Ah, j'adore. J'adore. C'est le secret de lecture de Valérie Perrin. Je sais pas si tu le vois. Qui a écrit Changer l'eau des fleurs.
Ah oui, maintenant que tu en parles. Ouais.
C'est son secret de lecture et j'adore.
Je vois aussi beaucoup de personnes. Alors, moi j'ai vraiment mes questions pratico-pratiques. Comment le livre n'est pas tout mouillé, ondulé? Comment il ne tombe pas dans le bain? Comment ça se passe? Moi j'ai essayé une fois, mais je suis trop maladroite.
Écoute, juste à côté de ta baignoire, tu mets ton petit essuie. Alors, si tu ne peux pas l'accrocher, parce que moi j'ai un crochet à côté de mon bain, mais si tu n'as pas de crochet, tu le fous sur une étagère ou même à terre, grave. Et une fois que tu as bien remué l'eau, tu prends ton essuie-à-terre, tu te ressuies les mains et puis tu prends ton livre.
Et tu ne bouges plus alors tu...
Tu bouges presque plus. Mais après, tu restes pas...
Oui, oui.
C'est pas rester une heure comme ça, hein. Tu restes 20 minutes et puis c'est bon. Mm-hmm. En plus, tu as des lunettes, j'en ai aussi. Je sais pas si tu les portes.
Ah non, non, il faut les mettre pour lire, évidemment.
Voilà, donc le bain... voilà, t'as l'impression d'avoir ton masque même dans ton bain.
C'est ça, quoi.
Donc, tu restes pas des heures, quoi.
Mais en tout cas, ce que je trouve génial, c'est lire en marchant. Ça, ça témoigne vraiment de ta passion. C'est qu'il y a un livre dans lequel tu es vraiment plongé.
Absorbé,
absorbé,
quoi.
Voilà, quoi.
Ouais, ça m'arrive c'est quelques chouette. Fois. Ça m'arrive pas tout le temps, hein, mais... Et par exemple, dans les transports, je ne lis pas si je suis debout. S'il y a plus de place et que je suis debout, ben, c'est pas pratique, quoi.
Tu parles aussi de la lecture dans le lit, dans le bain. Moi, j'ai l'impression, je le vois aussi, même quand on fait des lectures en plein air, dans des parcs, dans des beaux endroits verts, il y a quand même une notion de confort.
Oui.
On doit se sentir bien pour lire.
Oui, et puis, ouais, quand t'es debout, il y a des gens qui passent, il y a... Je sais pas. Tout à l'heure, j'étais dans un bus et j'ai pas lu. Je pensais lire, mais je n'ai pas lu parce que. Mais je suis un peu frustrée, tu vois, parce que je me dis, ah, j'aurais espéré avoir une petite place et. Et en plus de ça, je suis le premier qui me lève quand une personne en difficulté rentre dans un bus ou ce genre de choses. Donc.
Mais c'est bien la frustration aussi. Ça montre que t'as envie d'y retourner, que tu as ce petit moment qui t'attend à autre. Enfin, plus tard.
Oui, ce sera plus tard.
Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est chouette. Maintenant, j'ai vraiment envie de me tourner vers le bookstagrammeur, la personne qui lit et qui écrit par rapport à ce qu'elle lit. Quand tu n'arrives pas à accrocher à une histoire. Parce qu'en fait, il y a un fameux débat. Moi, je dis toujours, on peut arrêter un livre en cours. C'est totalement
on
OK.
Peut.
Évidemment.
C'est OK.
Mais oui. Mais je te jure, les personnes, quand je donne des conférences ou des formations en bibliothérapie, parfois, ben, ça les secoue un peu de se dire, ah ouais, on n'est pas obligé. Donc toi, quand tu n'accroches pas, quand tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu fais? Tu persévères? Il y a un moment donné où tu abandonnes
Bah, écoute, après, en général, après 40 pages, je sais dire si le livre me plaît ou pas, plus ou moins, en tout cas.
C'est ta moyenne, un peu ta jauge.
Ouais.
Quoi.
Après, je pense que c'est à la fois peu, mais en même temps, je suis un lecteur passionné. Et c'est aussi mon travail.
C'est ça.
Donc, moi, après 40... Avant, j'abandonnais jamais. J'avais cette peur d'abandonner un livre. Ouh là là. En plus, quand tu l'as acheté, bah, ça te fait un peu... ça t'embête, quoi. Enfin,
Oui, oui. T'as un peu investi dans quelque chose, l'air de rien.
Ouais.
Et ton temps aussi.
Bah ouais. Et puis, aujourd'hui, je me permets d'abandonner. Parce que non seulement... Je sais qu'il me reste plein de livres à lire.
Voilà.
Et il vous restera toujours plein de livres à lire. Et non, je me permets d'abandonner. Et tant pis, après, il y en a où je me dis, je réessayerai peut-être plus tard. Je suis peut-être pas dans le mood pour lire ça maintenant. Et puis, il y en a d'autres, c'est un sujet qui me parle pas du tout. C'est, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les récits historiques. Ouais. J'ai vraiment du mal avec ça.
T'as identifié ça, c'est pas ton truc.
C'est vraiment pas mal. J'y connais rien à l'histoire. J'ai retenu très peu de choses de ce que j'ai pu apprendre à l'école. Désolé pour mes profs d'histoire si vous nous écoutez. Mais j'ai retenu très très peu de choses et ça me passionnait pas du tout à l'école et... Et dans les livres, ça me passionne pas non plus, quoi.
Donc toi, t'es d'accord avec moi, c'est OK, quoi.
Bah, c'est OK.
On va pas s'embêter, hein.
Qui vous dit, tu dois me lire absolument, personne.
Oui, bah, je pense que ça fera du bien à certaines personnes de l'entendre à nouveau.
On a le droit d'abandonner un livre, on a le droit de passer des pages, on a le droit de ne pas lire un chapitre parce qu'il est trop dur ou que sais-je. On a tous les droits, quoi.
Ben voilà. Moi, j'adore entendre ça. Ça.
Non, mais...
Oh, on fait ce qu'on veut, quoi.
Ben, on fait ce qu'on veut.
On s'éclate.
Ouais.
J'ai une dernière question par rapport à ces livres qui t'ont marqué, etc. Parce que j'ai l'impression que je suis encore un petit peu curieuse. Ça, c'est un petit...
J'aime bien les gens curieux.
Ben, je trouve que c'est une force maintenant. Je trouve que c'est bien d'être curieux, d'avoir envie d'aller plus loin. Je me dis, j'ai la chance de t'avoir avec moi. J'ai le temps que je vais te poser toutes mes questions.
Bah, vas-y.
Et en espérant qu'elles vont vraiment aussi intéresser nos auditeurs, nos auditrices. Tu m'as aussi confié qu'il y avait un autre livre marquant. Et j'avais envie d'amener cette idée aussi de notion de mieux-être ou de résilience. Il y a un livre qui t'a aidé à surmonter quelque chose. Et moi, c'est comment on surmonte une étape compliquée de la vie. Et j'ai envie de dire, si François est super cool et qu'il nous parle un peu de lui, peut-être que ça fera du bien à d'autres personnes. C'est quoi ce livre qui t'a aidé à surmonter une rupture. Je me permets de l'amener.
Oui, mais t'as bien raison. Et c'est peut-être la première fois que je le dis aussi, mais c'est... Voilà, il y a 7 mois maintenant, j'ai traversé une grosse rupture amoureuse. Et en fait, il s'est passé quelque chose où je croyais que ça n'arrivait justement que dans les films et que dans les livres. Mm-hmm. Moi, je pensais que ça n'existait pas, que une trahison, ça n'existait pas dans la réalité. Je croyais que c'était complètement dans les films, dans les dessins animés, dans tout ça, quoi. Et puis quand ça tombe dessus, tu te prends une grosse claque dans la face. Et au début, t'as l'impression que tout s'arrête, que tu n'y arriveras jamais. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et pour tout avouer, quand ça s'est passé, et pour ceux qui nous écoutent, vous le savez sans doute, mais j'ai arrêté mon compte Instagram pendant 3 semaines. Enfin, je n'avais pas de date où je reviendrais, mais c'était tellement dur, cette rupture, que j'ai tout arrêté. J'avais plein d'interviews prévues, plein de choses, plein de collaborations. J'ai tout arrêté. Mm-hmm. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais surmonter ça? Comment je vais y arriver? Et j'ai de la chance, je suis très bien entouré dans la vie, j'ai une famille exceptionnelle, j'ai des amis formidables, vraiment. Et il y a un livre qui est arrivé, mais pile poil, au bon moment, qui s'appelle « 21 peurs qui empêchent d'aimer » de Angelo Follet, qui est assez suivi sur Instagram avec le compte « Balance ta peur ».
Oui, oui, oui.
Et dans ce livre, il propose des exercices pour s'aimer soi, aimer la personne avec qui on veut être et aimer les autres. Mmh. Et moi, je pense être quelqu'un au fond de moi qui aime la vie, qui aime les gens, qui aime encore plus quand je partage ma vie avec une personne qui j'aime tout le monde. Je suis un peu bisounours, c'est vrai, j'aime tout le monde.
C'est merveilleux, tant mieux.
Et en fait, je ne comprenais peut-être pas ce qui pouvait se passer dans la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là. Et j'avais peut-être envie de comprendre. Alors, j'ai compris certaines choses. J'ai peut-être pas tout compris, j'ai peut-être pas les réponses à tout, mais c'est un livre qui m'a... Il m'a vraiment aidé, quoi. Il m'a vraiment aidé. J'ai eu l'occasion de parler avec l'auteur en message privé et je lui ai dit merci, mais... Alors, c'est clair, il y a les mots de mes amis et il y a les mots d'une amie très importante qui est très connue et qui s'appelle Laurie, qui m'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi... Il y a aussi ce livre qui a été... Et il est dans ma bibliothèque, tu sais, avec plein de post-it.
Ah oui, c'est le genre de livre où quand tu veux comprendre...
Voilà, et puis tu sais que tu y retourneras un jour.
C'est ça. Et retrouver les bonnes pages.
Voilà, et ce livre m'a aidé en même temps que ma lecture des 4 accords Toltec.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, et les deux de manière...
Je les ai lus en même temps et je peux te dire... Tout à l'heure, on parlait des livres qui nous changent et qui font qu'on grandisse. Les 4 accords Toltec, il en fait partie aussi. Mmh. Et c'est dur, hein. C'est difficile, hein, ces 4 accords. Mais, waouh! Moi, celui avec lequel j'avais le plus de mal, c'est ne rien prendre personnellement. Et par exemple, dans toute cette histoire de rupture, j'ai tout pris personnellement.
Ah oui, on est dans un état de vulnérabilité, de perte d'estime de soi, en plus, à ce moment-là.
En fait, j'ai lu ces deux-là en même temps et... J'y suis arrivée. Et aujourd'hui, je suis avec une personne incroyable et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mmh. Et on verra de quoi l'avenir sera fait. Mais je suis contente d'être passée par ça aussi. Parce que ces fêlures et ces échecs, enfin, c'est pas vraiment un échec, mais avec... C'est aussi les moments difficiles qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui.
Tout à fait. Il faut les accueillir comme ça.
Voilà. Mm-hmm. Et les accepter comme ça.
Oui, oui, oui. Je suis vraiment heureuse que tu oses ouvrir ce pan de ta vie ici dans le podcast parce que quand je suis bibliothérapeute et que je reçois quelqu'un en individuel, il y a des choses qui sont plus OK à amener, quoi. Burnout ou deuil, tu en parles, la relation à la mort. Mais beaucoup de personnes, rupture, amoureuse, c'est comme si parfois elle balayait un peu ça de la main, comme si c'était pas si grave, si c'était pas si important, que ça méritait pas la peine qu'on se penche dessus.
Mais c'est la société qui veut ça.
Oui, tout à fait.
Parce que ça, c'est pas grave une rupture,
mais
c'est pas grave.
Comme tu le dis, le monde s'arrête.
Quand ça t'arrive et que tu t'y attends pas du tout, mais tu te demandes vraiment ce qui t'arrive. Hein.
Ouais.
Tu. Mmh. Oh, ouais. Non, je...
C'est marrant que tu l'amènes. Personnellement, je me rappelle d'un de mes livres vraiment très, très marquant. C'est Le roman du mariage de Jeffrey Eugenides, qui a écrit Virgin Suicides. Et je me dis, c'est fou parce qu'il y a des moments clés dans la vie. Mariage, rencontre amoureuse, deuil, burn-out, épuisement. Il y a des moments assez marquants dans la vie d'une personne. La rupture amoureuse en fait partie. Donc, je vois que des livres magiques arrivent aussi à ce moment-là pour ce genre de...
Et puis, tu sais, on dit toujours... Moi, dans ma famille, par exemple, je les aime de tout mon cœur, mais on me dit « Oh, tu sais, moi aussi, je suis passé par là, tout le monde passe par là. » C'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne reste... Enfin, c'est pas facile, quoi.
C'est douloureux.
On veut pas vivre ça, enfin. Mais bon, voilà.
Oui. Ah, mais je suis heureuse que de te voir bien, de te retrouver rayonnant, bisounours, et si les livres avec d'autres choses autour de nous, heureusement, t'aident à te sentir mieux, c'est super, quoi. Moi, j'adore.
Les livres, les proches et le temps. Rien d'autre.
Ah, le temps. L'éloge de la patience aussi dans tout ça. J'ai une dernière question du coup pour vraiment boucler la boucle. Ben voilà, le podcast s'appelle Les mots qui délivrent. Tu aimes la lecture. Je comprends maintenant que tu as aussi évoqué la puissance de certains mots, notamment ceux dans l'écriture de Delphine de Vigan. Est-ce que pour toi, il y a un mot ou des mots, tu le lis dans un texte, tu l'écris, tu l'entends, tu ressens qu'il y a des mots qui délivrent?
C'est une super belle question. Vraiment, c'est une très belle question. Et qui est difficile en même temps. Mais j'aurais tendance à tous les mots qui ont une signification positive, libère.
Mmh.
Et tu parles de délivrer. Je veux pas être bateau, mais j'ai envie de dire liberté, tu vois.
Mmh.
Et j'ai envie de te dire liberté, alors j'ai envie de te dire passion aussi. C'est un mot qui me...
C'est fort, ça.
Ouais, c'est fort, mais c'est un... Alors, dans la passion, tu peux à la fois te sentir emprisonné, mais aussi libre. Mmh. Mais moi, je me sens plus libre dans le côté passionnel.
Ouais.
Et puis, j'ai envie de te dire... tous des mots, mais je veux pas qu'ils soient bateau, mais c'est vraiment des mots que j'applique... que je prends avec moi au quotidien, c'est bonheur, sourire, je trouve que c'est un mot, mon mot préféré, et je trouve qu'il libère d'une certaine façon, et ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais c'est rigolo.
Oui, oui.
Ce mot, je l'adore, et il est, dès que je le vois, voilà, je ne peux m'empêcher de sourire, mais après, ça va être tous des mots dans ma tête. Quand je vois les mots, je vois tous des mots positifs.
C'est ça.
Je vois pas de mots qui viennent assombrir tout ça. Et oui, je suis quelqu'un dans la vie de toujours, toujours positif. Mais le mot, ce serait liberté. Ouais, liberté.
C'est pas bateau du tout. J'ai déjà entendu plusieurs fois ici. Donc, il est très très fort aussi. Il est dans l'ouverture. Mmh. Comme ce que tu nous as amené aussi. Je trouve que tu as amené beaucoup d'ouverture. Tu as parlé de la propre ouverture que tu as ressentie en toi. Tu viens ici avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert à ces questions que je te pose, qui vont un peu chercher encore derrière le vernis. Allez, qui François, encore un peu plus, on a envie de savoir. Et liberté, alors là, moi, ça me gonfle le cœur à chaque fois que j'entends ce mot-là.
Mais tu vois, là, on est assis dans un studio et juste à côté, juste en face de moi, il est écrit « La joie se partage
». Ouais. Ah oui, la joie partagée, alors là, et c'est ce que tu fais merveilleusement avec tout ce que tu proposes.
Écoute,
de ta passion, justement.
Je ne m'en rends pas compte.
Mm-hmm.
Je ne me rends pas compte, mais je fais ça en tant que, oui, véritable passionné.
Ouais.
Et tu me le dis et je ne me rends pas compte que je procure tout ce bonheur aux gens, que, enfin, tant mieux.
Bah, c'est du partage, il y a du lien aussi qui se crée, même si c'est virtuel, mais il y a aussi des rencontres que tu fais avec des auteurs.
Et puis des rencontres avec des abonnés,
avec
en
des
vrai
abonnés,
aussi,
oui.
C'est important pour moi.
Ben
c'est
voilà,
important.
Donc tout ça, quelqu'un de super rayonnant, optimiste, on adore, j'adore, alors bienvenue au club. On me parle aussi comme si j'étais une bisounours, mais bienvenue à tous les bisounours de la Terre.
Ouais, ouais, et fuck le reste, je me permets.
Oui, on peut.
Non,
alors
mais...
ça c'est important, on préfère un deuxième épisode là-dessus, mais fuck le reste, quoi.
Ouais.
Ne pas venir entacher cette petite aura de bonheur qu'on se crée autour de nous, avec les livres, avec d'autres choses. Oh, François, merci du fond du cœur.
Mais c'est moi qui te remercie.
Vraiment, j'ai adoré cette discussion. Vraiment en tant que personne, de personne à personne, c'est ça.
Ouais, mais c'est ça beaucoup. Qu'il faut dans la vie. Mm-hmm. Merci à toi.
Et écoute, on te suit, on continue de te suivre. Hein, et on découvrira les autres opportunités, les autres grandes choses que tu vas nous proposer par la suite.
Mais c'est grâce à vous tous.
À bientôt François, au revoir.
Salut.
Voilà. Cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.